Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Campus Grenoble 90.8. On est le samedi 28 mars, il fait beau dehors. Ouvrez les yeux, prenez un peu d'air. On retrouve aujourd'hui encore Ella Maillard dans la caravane en Asie qui part vers l'ouest dans Oasis interdite. Je vous propose de fermer les yeux, de vous installer confortablement. Nous en sommes au chapitre 12, vie de la caravane. Jour après jour, notre existence se déroule selon la règle immuable des siècles. Avant l'aube, sans heurts ni bruit inutile, 250 chameaux, une trentaine de chevaux et environ 90 êtres humains se disposent au départ. Les chameaux, qui restent battés la nuit, ont dormi accroupis en demi-cercle, près des ballots de leurs propriétaires, jonchant le sol de petites crottes rondes et noires comme de grandes olives. Avec la cendre des feux, c'est toute la trace que laissera notre passage. Et sans les restes analogues des caravanes précédentes, nous n'aurions pu faire cuire notre soupe. Torse brun et nu dégagé de la pelisse de mouton, hommes et femmes s'affairent. Ils lancent habilement une corde sous le ventre du chameau au moment où il s'accroupit. Ils ficellent les sacs et d'un dernier coup de rein arriment les charges à bloc. Et déjà, le premier groupe s'ébranle, retournant à la piste quittée la veille. Le ciel est gris, lourd de froid, et le globe opaque du soleil se lève au-dessus de collines pelées. Pendant que Lee selle mon cheval et que Peter défait la tente, j'emballe les vivres dans la cantine. Beurre, petits cubes de pain aussi durs que du biscuit de mer, viande froide, cacao, sucre, tsamba et confiture. Puis notre caravane partie, accroupie près des cendres encore chaudes, nous retardons l'instant de reprendre la lente marche monotone. Nous avalons un dernier bol de thé, j'accroche la bouilloire à ma selle, j'enfouis mon quart d'émail dans mon bissac et je n'ai plus qu'à chercher une motte de terre pour sauter en selle. À l'écart, tourné vers Lhasa, devant un bâton qu'il a planté en terre, le prince fait ses prières matinales. En un temps de galop, je rattrape l'immense chenille qui rampe vers l'ouest. Nous ne sommes qu'une vingtaine de cavaliers, voyageurs privilégiés qui pouvons aller où bon nous semble, à la vitesse qui nous plaît. J'admire dans notre groupe un beau Dungan au nez droit d'arabe qui deviendra notre ami, ainsi qu'un jovial mongol aux yeux intelligents, coiffé d'un feutre rond comme celui d'un clergyman. Il s'appelle Gunzun et doit appartenir à la maison du prince. Peter, en général, ne tarde pas à se mettre en chasse avec sa petite carabine et, montée sur slalom, je prends son poney à la remorque, contente de moi quand je parviens à passer un fossé en saut couplé. Et je vois Peter, au loin, qui poursuit des oies sauvages et plusieurs fois se couche pour tirer. Mais, si bon fusil quand il chasse seul à l'étape pour remplir chaque soir notre marmite, il est gêné quand il chasse le long de la caravane. Il est poursuivi par le Bosco qui, poignard en main, s'apprête déjà à saigner la victime en bon Dungan. Ce personnage bouffon qui nous rappelle le boss une de Tempeste crie sans cesse pour indiquer où les oiseaux se sont posés. Et les oiseaux s'envolent. Et Peter les rate. Et enfin, peu habitué à tirer sous les regards intimidants de 250 chameaux, mon compagnon finit par abandonner la partie et je lui ramène son poney. 60 lis plus près de Londres. Chaque fois que je trotte derrière la silhouette de Peter, j'envie les talents d'un caricaturiste. Le poney disparaît sous le manteau militaire de son maître, dont les jambes pourraient, je crois, se toucher sous le ventre de l'animal. Mais la plupart du temps, nous chevauchons loin l'un de l'autre, comme si nous cherchions à ne pas nous voir pendant quelques heures. notre état d'esprit est très différent. Peter découvre avec émerveillement la vie des nomades, vie vieille comme le monde. Il est tout aux joies de l'initiation. Moi, au contraire, je retrouve une partie de mon passé et je continue en quelque sorte le voyage commencé au Turkestan russe. Je connais déjà l'odeur des chameaux, leur haleine fétide quand ils ruminent. Je sais la halte au point d'eau, la collecte du crottin pour le feu et les joies que procure le thé bouillant. Je n'ignore pas la recherche des bêtes égarées à la poursuite de leur pâture, ni le silence des nuits où les yeux brûlent d'avoir trop regardé dans le vent. J'aime cette vie primitive où je retrouve la faim qui transforme en joie solide chaque morceau mis sous la dent, la saine fatigue qui fait du sommeil une volupté incomparable et le désir d'avancer que chaque pas réalisé. Unis par le désir de réussir dans notre entreprise, nous nous entendons à merveille. Mais en somme, nous n'envisageons pas les choses sous le même angle. Peter, tous les soirs, me répète comme un refrain. 60 lits de moins d'ici, Londres. C'est pour me taquiner, et je le prie de se taire, car je veux oublier que le retour est inévitable. Je suis même sans désir de retour. Je souhaiterais que le voyage puisse se prolonger toute la vie. Rien ne m'attire en Occident, où je sais bien que je me sentirais seule parmi mes contemporains, dont les préoccupations me sont devenues étrangères. À Londres, j'avais cru Peter révolté contre la vie des villes. Maintenant, je le vois impatient de la retrouver. Je me demande s'il y a eu là qu'une affection de bon ton. Mais comment savoir même s'il est sincère aujourd'hui, ou paradoxal, ou s'il me mystifie? Autant de questions que ses compatriotes seront seuls, j'imagine, à pouvoir résoudre. Ce qui est sûr, c'est que Peter semble craindre moins de finir au fond d'une prison de Rumski que de ne pas être de retour à temps pour chasser la grouse en Écosse. Nous allions traverser un des plus beaux terrains de chasse du monde, mais c'est en vain que Yak et Toulan du Tibet, Mouflon, Bouctin et Marcor de l'Hindoukouche seraient à portée de fusil. Quel compagnon surprenant! Tient-il à accomplir cet exploit unique de chasser la même année le tur du Caucase, le canard de Shanghai, l'antilope du coucou nord ou le cerf d'Écosse? Quoique marchant au pas, Slalom gagne peu à peu la tête de la procession qui couvre plusieurs kilomètres. Sur un poney lent et hirsute, une vieille femme est notre chef de file, semblable à un clown sous son chapeau pointu. Ses cheveux embroussaillés cachent les rides de son visage tanné, et dans sa main elle tient la cordelette de crin qui tire le nez du premier chameau, le seul qui ait à son cou une longue cloche au son sourd. Lorsqu'elle a trop froid, elle met pied à terre, et raidie par ses rhumatismes, elle marche comme un automate, traînant sur le sol gelé ses lourdes bottes éculées. Son manteau énorme balaie la terre, un briquet branque-balle à sa ceinture. La marche régulière, implacable, de cette vieille norne entraîne comme une impression de fatalité. De 10 en 10 chameaux environ, marche un conducteur mongol. Au perché entre les charges, emmitouflés comme des vieilles, sont installés les Dungan ou Wewe chercheurs d'or, les vieux mongols qui égrènent leur rosaire en marmonnant des prières. On entend les coups secs avec lesquels les fumeurs vident leurs pipes contre leurs talons. Avec le balancement de la marche, les cargaisons prennent souvent de la gîte. Alors, un mongol à cheval vient se mettre contre le chameau et tout en avançant, il soulève la caisse d'un coup d'épaule pour rétablir l'équilibre. Mais la plupart du temps, à contre-cœur, il faut en venir aux grands moyens. La cordée est arrêtée, la bête s'accroupit, on défait la longue corde passée en huit sur les extrémités des piquets de bas et l'arrimage est refait. Le chameau a profité de l'arrêt pour allonger son cou comme un cygne jusqu'aux touffes d'herbes les plus éloignées. Pendant ce temps, toute la caravane a défilé et la cordée immobilisée a du retard. Pour la rattraper, les bêtes sont encouragées d'un guttural Hoc hoc, que nous aurons que trop d'occasions de proférer nous-mêmes par la suite. Après quelques heures de marche, la corde qui, au départ, pendait d'un chameau à l'autre, se tend. Les coups, d'abord dressés, s'abaissent, et fatigués, les bêtes ralentissent l'allure. Smig m'avait dit de ne pas prendre de pelisse, le climat du Tsedam n'étant pas vraiment froid. Mais en réalité, je suis obligée de marcher tant je claque des dents, malgré tous les gros habits amoncelés sur moi. Par vent debout, je rabats avec plaisir les oreillettes de mon bonnet de fourrure mandchourien. Un seul signe annonce la fin de l'hiver. La laine pend en guenilles le long des cuisses étroites des chameaux. Il mue, et la police qui apparaît, gris de fer, ressemble au caoutchouc des pneus usés. Les caravaniers, tout en marchant à côté de leurs bêtes, leur arrachent le poil floconneux pour filer une souple cordelette destinée à remplacer bientôt celle qui mène, déjà usée, leur chameau par le nez. Souvent, je rejoins le groupe des marchands chinois à cheval qui ont des silhouettes de langoustes grâce aux longues antennes du chevalet de pointage fixé à leur fusil. Nous galopons tout en excitant nos montures à se dépasser, hors déchaînés d'être sauvages, vêtus de peaux de bêtes, poussant des cris et cavalquant à la conquête du désert. Mais le premier ravin rencontré nous arrête là. Couchés à l'abri, nous attendons que la caravane nous rejoigne, annoncée par le grelot attaché au cou des chiens de garde. La conversation de ces marchands est loin d'être aisée. Ils veulent savoir le prix de mes bottes cloutées ou de mes gants de ski, puis ils s'étonnent d'apprendre que je ne suis pas anglaise comme Peter. De mon côté, je m'informe lequel d'entre eux sont disciples de la Haisyo Chao, la petite foi ou islam, opposée de la grande foi ou bouddhisme. Ils viennent presque tous de Hosho, ville musulmane au sud de Lanzhou. Seul le plus jeune d'entre eux connaît les caractères chinois et même les caractères romains imprimés sur ma carte de visite. Ce garçon éveillé veut savoir à quelle distance nous sommes de la France. Notre caravane y parviendrait, dis-je, si pendant 10 mois, elle couvrait chaque jour 30 kilomètres comme aujourd'hui. Ces marchands suivent docilement la caravane, mais sitôt qu'ils trouveront des Mongols au campement, ils s'abattront sur eux, comme autant de vautours, leur vendront tout ce qu'ils peuvent et les forceront presque à s'endetter. Et quelle possibilité n'offre pas une population qui ignore encore l'usage de la chemise ? Vers 2 heures de l'après-midi, nous arrivons à l'étape. Nous n'avons guère couvert que 25 ou 30 kilomètres en 8 heures, mais il faut que les bêtes aient le temps de brouter avant la nuit. C'est à celui qui aura le plus vite fait bouillir son thé sous la tente, et les premiers arrivés sont avantagés. Ils n'ont eu qu'à se baisser pour ramasser les argoles combustibles dans le pan de leur manteau. Avant de boire, très pieux, le Mongol fait le tour de sa tente pour lancer une cuillerée de thé en offrande aux 4 points cardinaux. De même que les indigènes, au milieu de la journée et au petit déjeuner, nous mangeons la tsamba. Dans du thé bouillant et salé, on fait fondre un morceau de beurre auquel on mélange de la farine d'orge grillée. On malaxe le tout d'une main habile et l'on en fait une boulette solide, prête à être mangée. Mais c'est le soir, à l'arrivée au camp, que nous faisons le vrai seul repas de la journée. Je mettais à cuire dans la marmite, avec des pâtes ou du riz, le gibier que Peter avait rapporté. Quartier d'antilope, oies sauvages, lièvres, canards, parfois faisans. Il arrivait aussi que nos voisins nous donnent un morceau d'âne sauvage ou de yak domestique. Ou encore qu'un patient, reconnaissant des soins que j'avais pu lui donner, m'apporte un peu de mouton ou une assiette de petits cubes de pain grillé qui remplaçait le manto ou pain de la ville. Enfin, j'avais ma provision d'oignons et de fruits secs. Outre ma marmite, j'avais une poêle à frire fort originale. Dans les auberges, les Chinois se lavent les mains et le visage dans un récipient de laiton brillant, à fond plat, à bords presque verticaux, et j'en avais acheté un, le trouvant moins fragile et moins encombrant qu'une cuvette d'émail. En route, je le casais dans la marmite. À l'étape, nous y mettions l'eau tiède dont nous bassinions nos visages brûlés. Puis, Lee me le rapportait au moment du repas, et j'y faisais parfois sauter la viande ou revenir au beurre mes abricots séchés. Jamais, disais-je à Peter en me rappelant mes précédents voyages, je n'avais vécu aussi luxueusement que depuis que j'avais joint mon sort à celui des Old Etonians. Deux fois par jour, il fallait nourrir les chevaux d'orge et de pois cassés, aussi durs que de la pierre. Retirant un jour sa musette à slalom, je découvris une couronne de molaires. Et, enfin, venait la nuit. Le vent qui avait mugi toute la journée dans nos oreilles bourdonnantes et qui, chargé de poussière ou de neige, avait brûlé nos visages, s'acharnait maintenant contre nos tentes, moins destinées à nous protéger contre le froid que contre sa poussée continue. Cette existence, évoquée dans telle métropole d'Occident, me remplirait de nostalgie. Mais je m'étais si complètement intégrée à la vie de la piste, à la vie des bêtes et celle des éléments, qu'il me semblait l'avoir toujours menée. C'était l'Occident qui me paraissait irréel, et je l'avais tellement oublié que même un effort de mémoire ne parvenait plus à me le restituer quand je m'endormais. Je m'improvise médecin. Lee ayant raconté que nos caisses contenaient des merveilles telles qu'une boîte qui faisait de la musique et des remèdes nombreux, il fallut céder aux demandes et faire marcher mon minuscule Mickeyphone. Nous n'avions que 3 disques, et lorsqu'on en arrivait à la partie chantée, les auditeurs ne cachaient pas leur plaisir. Mais surtout, jour après jour, des malades, vrais ou non, défilaient sous ma tente. Je traitais les plaies au permanganate, puis à la pommade iodoformée. Je consultais avec sérieux la liste de mes médicaments lorsque je me trouvais dans l'embarras. Je faisais avaler de l'huile de ricin à ceux qui se plaignaient de maux de ventre, ou de la quinine aux hommes qui avaient grand chaud puis grand froid. Ceux qui toussaient ou se plaignaient de leur rhumatisme, fait peu surprenant étant donné la mode mongole si décolletée, recevaient quelques pilules japonaises de jintan, panacée universelle à base de cachou. Aux Mongols, dont les yeux étaient depuis longtemps enflés et rougis par l'âcre fumée des argoles, je montrais comment se laver avec un peu de watts et de thé. Un jour, d'un coup de lame de rasoir, je libérais l'abcès d'une main enflée. Pour laver cette main crasseuse, j'avais dû la baigner une demi-heure dans de l'eau quasi bouillante. « Les Mongols ne se lavent pas, » dit-on, de peur d'être transformés en poissons après leur mort. D'autre part, l'eau des puits leur semble chargée de maléfices. Issue de l'intérieur de la terre, où règne le principe femelle, elle ne sera bonne qu'exposée à l'air et au soleil, qui font partie du monde mâle, des régions supérieures. Mais cette saleté inouïe n'est guère incommodante en hiver, où le froid affaiblit même l'odeur du beurre rance dont leurs pelisses sont imbibées. Chapitre 13. Pays des Tangouts. Au XIe siècle, sous le nom de Hissia, les redoutés Tangouts, dont nous allions traverser le pays en quittant le Koukounor, jouèrent un rôle dans l'histoire de l'Asie. Leur royaume tibétain s'étendait au sud de la Mongolie, et c'est en essayant de les vaincre que Genghis Khan, l'inflexible empereur, mourut, le genou perché d'une flèche, selon Marco Polo. Et depuis lors, les voyageurs étrangers qui ont traversé le sauvage pays Tangout ont relaté les attaques qu'ils ont subies, ou les précautions qu'ils ont prises, et les sacrifices faits aux mauvais esprits par leurs serviteurs indigènes. Aujourd'hui encore, les Chinois qui habitent dans les oasis du Gobi, au pied des monts Nanshan, vivent dans la crainte des pillards tangouts cachés dans ces terrifiantes régions neigeuses. Smig m'avait dit, lui aussi, que la région du sud du Koukounor était dangereuse à traverser. Il y avait été attaqué par des voleurs de chevaux et l'on ne pouvait y voyager qu'en grande caravane. « Quand vous traverserez le pays tangout, nous avait-il dit, « dissimulez vos dollars dans le sac de farine, c'est la cachette la plus sûre. » De nuit, en rampant, ces hardis gaillards parviennent à étouffer les chiens de garde et s'emparer d'un camp par surprise. Ellie, en effet, nous forçait à empiler caisses, sacs et valises à l'intérieur de la tente. Il y arrangeait pour lui-même une couche sur le sac de pois cassés destiné aux bêtes. Les chevaux avaient leurs entraves cadenassées, et pendant toute la nuit, arpentant le camp, des veilleurs lançaient un cri rauque pour prouver, je pense, qu'ils ne dormaient pas. Peter ne se laissait pas impressionner. 2 minutes après s'être couché, il dormait à poings fermés. Le souvenir de mes lectures me hantait davantage, et j'écoutais le vent comme un gigantesque soufflet de forge ébranlé à chaque reprise, notre abri de fine toile. C'était un peu comme la vie au port, dans un voilier, et je revivais d'héroïques tourmentes de Mistral à Porquerolles ou à Rossas, et le coup de Suroît qui avait échoué l'Atalante devant Yarmouth. Ici du moins, j'étais libre de cette inquiétude-là, et je me délectais de la sécurité que donne la terre sous soi. J'écrivais mes notes un soir, lorsque j'entendis courir et crier mes voisins mongols. Dehors, des flamèches sautaient d'herbe en herbe, et le sol noircissait à vue d'œil, tandis qu'une fumée blanche se répandait. Des hommes piétinaient ou frappaient la terre avec des peaux de mouton et des morceaux de feutre pour détourner l'incendie des tentes placées sous le vent. On ne pouvait sauver le foin séché sur les pieds, malheureusement, et comme en se jouant, le vent poussait le feu vers les montagnes. La laine des chameaux était des plus inflammables. Il fallut aller chasser ces bêtes qui regardaient le fléau s'approcher d'elles. Il y a 8 jours que nous avons quitté Tangar. Nous tournons le dos au coucou nord et partons vers le sud, vers d'étranges montagnes fumantes dont toute l'herbe sèche a brûlé. Nous approchons de contrées fort mal révélées sur les cartes de l'Indian Survey. Pendant plusieurs jours, nous ne croiserons plus d'êtres humains, quoique d'après la carte et de ses points noirs, indiquant des camping grounds, nous devrions nous retrouver dans une région habitée. Quelle désolation sera-ce alors quand nous traverserons un pays désert ? Ces montagnes noircies, dont seules les arêtes sont claires, créent une vision d'un autre monde, semblable à celle que révèle la pellicule négative d'un paysage d'hiver. Du haut d'une colline, pour la dernière fois, mon œil domine l'étendue enneigée du lac sous le soleil pâle. Les ânes sauvages. Peter a eu raison. Les brigands Tangout nous ont ignorés. Nous passons, à plus de 4000 mètres, un premier col assez raide, le Tsakatchou, à ce que je crois, jalonné de carcasses de chameaux, où les bêtes s'arrêtent tous les 20 pas pour respirer. Puis nous descendons vers l'immense plaine déserte de Dubunsun. Loin devant nous, une ligne blanche tremble comme un mirage, au-dessus de la terre jaune. Qu'est-ce ? Le lendemain, après une lente approche, je vois que j'ai perdu mon pari. Ce n'est pas un dépôt salin au pied de la montagne, c'est la glace d'un lac qui passe pour s'écrouler vers le fleuve jaune après avoir traversé la contrée des Panakas. Ces derniers sont des Tibétains auxquels les Mongols du Tsedam, nos amis, ont emprunté la mode des chapeaux pointus à bord droit. Dans la steppe nue, ne poussent que des ajoncs dont les épines sont garnies de touffes de laine enlevées aux jambes des chameaux. La lumière est si aveuglante, le vent si froid, que Peter a un œil enflammé qui pleure. Il accepte volontiers mes lunettes de glacier, et je ne lui prête pas sans lui remontrer son imprudence et sans lui rappeler ses présomptueuses paroles de Pékin « Moi, je ne porte jamais de lunettes ». Au sommet d'un deuxième col peu élevé, notre ami Gunzun jette un caillou propitiatoire sur un grand hobo, sur un de ces tas de pierres accumulées par un rite millénaire le long des voies de l'Asie. Arrivés au milieu de la nouvelle plaine, nous attendons la caravane. Un peu plus loin, tourné vers Lhasa, le prince prie. Gunzun, tenant son cheval par la bride à distance respectueuse. Timide, ou ne voulant pas se commettre avec des étrangers au but douteux, le prince reste toujours à l'écart. Seul le désir de manier la carabine de Peter l'a fait approcher une fois de nous. Peter et moi devisons. « Que ne donnerais-je, dit Peter, pour qu'un maître d'hôtel surgisse avec une montagne de brouillé garnie de saucisses et tenant à la main le Times d'aujourd'hui. D'accord pour les œufs, mais le Times ? Pour moi, l'Europe est si loin qu'elle me semble morte et ce désir me paraît incompréhensible. Il fait froid et pendant la nuit, j'ai entendu les loups. Les Mongols n'en gardent pas moins le torse nu à 5 heures du matin lorsqu'ils lestent les bêtes et je les vois charger des blocs de glace dans des sacs, signe que nous ne trouverons pas d'eau ce soir. Les chevaux inquiets avancent sur un sol parfois boursouflé qui cède sous leurs pas et qui est marqué en tous sens par les sabots d'âne sauvage dont l'empreinte forme une large flèche inscrite dans un cercle. On parlait depuis plusieurs jours de ces coulanes, mais tout à coup, Lee, qui chevauche à mon côté, s'écrie « En voilà !» Je ne vois d'abord, au loin, que des taches claires comme celles des antilopes. Puis soudain, avec des volutes de poussière, les jolies bêtes s'enfuient à la file indienne, régulièrement espacées, dessinant comme une frise archaïque de leur fière tête dressée aux crinières hérissées. Quelques jours plus tard, comme j'étais déjà heureuse que Peter n'eût pas réussi, alors qu'il avait dû se servir pour cela de sa grosse carabine peu précise, à abattre une de ces libres bêtes, nos cavaliers chinois nous dépassent en trombe. Nous les suivons en rejoignant un groupe qui s'est formé autour d'un coulan, dont la patte a été cassée par un vieux Dungan misanthrope, au cheval paré d'une clochette argentine. La pauvre bête, son sabot pendant au bout d'un morceau de peau, est encore cravachée par la cruauté inutile des hommes, qui la retire par un licol, et après quelques pas sur son moignon, elle finit par tomber. En vain, de ses yeux exorbités, la victime semble chercher une aide. Son large cou porte une grande tête au museau blanc et aux petites oreilles. Son pelage est fauve, son ventre blond, sa courte crinière, raide et foncée, se prolonge par une raie brune jusqu'à la queue, qui est celle d'un âne. Enfin, un large coup de couteau entaille sa gorge. Le sang épais et gras gicle d'une fontaine pendant longtemps, formant une mare sombre qui s'étale. Pour étouffer les convulsions, les hommes s'assoient sur la victime, qui expire enfin, les jambes soudain raidies. On ne peut apprivoiser les coulanes, mais leur viande est fort appréciée dans le pays et tout le monde se réjouit du festin en perspective. Du coup, il y aura du cuir neuf à ficeler autour des pieds des Wawa, qui font tout le trajet à pied, et il y aura des bandes de fourrure bien fournies pour orner les croupières des harnais, selon la tradition. Et bien voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Des aventures d'Ella Maillard avec Peter Fleming et sa caravane de chameaux vers les oasis interdites. Mais on se retrouve demain pour son entrée dans le Tsedan et les maisons les plus reculées de l'Asie. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, mangez des légumes, faites-vous des petits trucs cool à manger. Moi, j'ai redécouvert des recettes dans les magasins bio en ce moment où on ne trouve plus que des pâtes aux pois chiches ou ce genre de trucs. Donc, une petite astuce, une portion de pâte aux pois chiches par personne et des petits poivrons dans une poêle. Hop, on fait cuire les pâtes, on fait le poivron à côté qui est cuit en petites lamelles. On mélange le tout, une toute petite cuillère à café de moutarde et c'est parti. C'est hyper bon. Bon, sinon, je suis presque végétarienne en ce moment et mon ventre crie de famine pour un burger. Alors, je crois que ce soir, je vais me faire ça. À très vite, en fait, à demain, sur Campus Grenoble 90.8.
Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.